Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le séisme dévastateur en Turquie et en Syrie, le bilan n'en finit pas de s'alourdir. Il y avait ce jeudi plus de 17 500 morts, bilan qui reste provisoire. L'Union européenne va organiser début mars une conférence des donateurs pour mobiliser des fonds internationaux pour aider les populations frappées par ce séisme. Dès lundi, le groupe d'amitié France-Turquie au Sénat demandait à la France d'apporter une aide d'urgence à la Turquie pour affronter cette tragédie et fournir l'assistance nécessaire. Nous écouterons son président, le sénateur Jean-Claude Requier. Les représentants religieux font part également de leur solidarité et appellent à la mobilisation. Dans votre journal, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, président du Conseil des Mosquées du Rhône, Kamel Kaptan. Nous écouterons aussi le grand imam de Bordeaux, président du Comité d'éthique du Secours islamique France, Tarek Oubrou. Le président algérien a décidé de rappeler pour consultation son ambassadeur en France, une décision à la suite de l'exfiltration, selon le terme employé, de la militante et journaliste Amira Bouraoui via la Tunisie lundi dernier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Bruxelles ce jeudi pour un Conseil européen extraordinaire, cela au lendemain d'un déplacement à Londres et Paris. Nouvelle journée de mobilisation samedi contre la réforme des retraites. Il y aura des manifestations, mais pas de grève. Des retraités seront dans le cortège à l'image de Bernard Guidou, secrétaire général adjoint de l'UCR-CGT. Vous l'entendrez. Le bilan s'alourdit de jour en jour après le tremblement de terre lundi en Turquie et en Syrie. Plus de 17 500 personnes ont été tuées selon un bilan officiel publié ce jeudi. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des rescapés dans un froid glacial. Suite à ce séisme, entretien avec le président du groupe d'amitié France-Turquie au Sénat, le groupe qui, dès lundi, a demandé à la France d'apporter une aide d'urgence, le sénateur Jean-Claude Requier.
Dès lundi, dès que nous avons appris cette triste nouvelle, ce double séisme meurtrier, donc qui a touché le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. J'ai rédigé et adressé, donc, au nom du groupe d'amitié du Sénat, du groupe d'amitié France-Turquie que j'ai l'honneur de présider, mes condoléances au président Erdogan, au peuple turc et aux familles de ceux qui ont perdu la vie et aux blessés. J'ai formulé des vœux de prompt rétablissement. On est tous frappés par ces images, et donc, en particulier de cet immeuble qui s'est effondré comme un château de cartes, avec bien sûr des milliers de morts, ce qui est pas sans rappeler le tremblement de terre d'Izmit en 1999 qui avait fait 17 000 morts. Alors j'ai également pris des nouvelles de M. Kazim Gulpinar, qui est mon homologue, qui préside le groupe d'amitié entre la Turquie et la France. Il est député de la Grande Assemblée nationale turque et je l'avais rencontré en juin 2022. Lors d'un déplacement d'une délégation de sénateurs français à Ankara et Istanbul, et il nous a rassuré sur son état de santé ainsi que ses proches. Et j'ai demandé également donc aux autorités françaises d'apporter une aide d'urgence à la Turquie pour affronter cette tragédie et fournir l'assistance nécessaire pour surmonter les conséquences de la catastrophe. Et j'ai tenu au courant, bien sûr, dans la démarche, l'ambassadeur de France en Turquie, Hervé Magro également, tout ça avec aussi l'ambassadeur de Turquie en France. Voilà donc ce qu'on a fait, si vous voulez, en premier temps, pour réagir à soutenir donc la Turquie et le peuple turc et syrien dans ce double séisme meurtrier.
La Turquie comme la Syrie qui ont besoin d'une aide d'urgence, ces deux pays qui ont également besoin d'une aide sur le long terme. Les sinistrés se comptent aujourd'hui par dizaines de milliers suite à ce tremblement de terre.
Tout à fait, donc, je suis bien sûr l'évolution de la situation. Je vois que le nombre de morts augmente d'heure en heure. La France est mobilisée pour apporter une aide d'urgence aux populations touchées. Elle a envoyé des pompiers, des personnels de la sécurité civile. Je crois qu'elle a envoyé aujourd'hui un hôpital de campagne donc pour soulager, pour traiter les blessés. Et puis, la France a répondu à la demande donc d'assistance formulée par les autorités turques via le mécanisme de protection civile de l'Union, le MPCU, qui permet donc à un pays touché par la catastrophe de faire appel à la solidarité européenne. Je crois qu'actuellement, il y a 140 Français qui sont à pied d'œuvre pour porter les premiers secours, et la France, bien sûr, s'apprête à fournir encore plus d'assistance aux populations sinistrées dans le cadre de l'aide médicale d'urgence. Je crois que l'Europe aussi va fournir 1200 secouristes, qui proviennent de 20 pays et 70 chiens de sauvetage qui sont chargés de trouver des survivants dans les décombres. Alors, quant à la Turquie, également, il y a une aide qui est destinée aux populations locales. C'est plus difficile parce que le contexte politique est plus compliqué. Et donc, voici un peu ce que la France fait, bien sûr avec en lien avec les ONG. Et ça, c'est dans le premier temps. Mais chacun sait qu'il faudra ensuite reconstruire. Et là, ce sera d'autres politiques qui devront être mises en œuvre en sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup de dégâts et que ça coûtera très cher de remettre donc le pays, dans les zones sinistrées, à l'État.
Le sénateur Jean-Claude Requier, président du groupe d'amitié France-Turquie au Sénat. L'Union européenne va organiser début mars une conférence des donateurs pour mobiliser des fonds internationaux pour aider les populations frappées par ce séisme. Une annonce de la présidente de la Commission. Il s'agira de coordonner la réponse des donateurs et de lever des fonds pour fournir une aide d'urgence et contribuer à une reconstruction rapide des régions turques et syriennes frappées par cette catastrophe. La France annonce qu'elle va mettre en place une aide d'urgence à la population syrienne à hauteur de 12 millions d'euros. Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères indique que cette aide sera distribuée en lien avec les organisations non gouvernementales et avec les Nations Unies dans l'ensemble des régions touchées par les séismes. Les représentants religieux font part de leur solidarité et appellent à la mobilisation après cette catastrophe. Le recteur de la mosquée de Lyon, président du Conseil des mosquées du Rhône, Kamel Kaptan.
L'ensemble de la communauté musulmane du Rhône a été effectivement très touché par ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est arrivé en Syrie et en Turquie. C'est vrai que c'est une situation très difficile que vivent ces deux pays, notamment la Syrie qui aujourd'hui, d'après ce que je vois, on parle très peu, mais qui a autant de difficultés que ce qui se passe en Turquie. Nous avons voulu adresser effectivement notre soutien à l'ensemble de ces pays pour leur dire que nous pensons beaucoup à eux et que vendredi prochain, nous avons mobilisé l'ensemble de nos mosquées pour qu'elles puissent faire élever à la mémoire des victimes de cette tragédie, de ce tragique séisme, une prière, la prière de l'absent, mais aussi nous avons lancé un appel à la solidarité envers ces pays. Toutes les mosquées aujourd'hui ont été mobilisées, sont mobilisées pour justement apporter leur soutien matériel à la Syrie et à la Turquie. Nous allons effectivement, dans les jours qui viennent, voir de quelle façon nous allons pouvoir procéder pour les aider, mais en tout cas, sachez que dans le Rhône, l'ensemble des institutions religieuses musulmanes se sont mobilisées et essayent aujourd'hui d'apporter un peu de solidarité envers les souffrances que vivent ces pays. Donc nous allons voir de quelle façon nous allons procéder, mais en tout cas, sachez que nous sommes mobilisés et que nous allons, dans les jours qui viennent, essayer d'apporter financièrement notre soutien à ces peuples qui aujourd'hui souffrent.
Et vous nous dites donc qu'une aide matérielle va être envoyée aux populations sinistrées. Vous demandez ainsi la mobilisation des fidèles notamment.
Tout à fait. Nous demandons la mobilisation des fidèles, parce que comme on l'a fait il y a quelque temps pour la Palestine, lorsque, après le bombardement de Gaza, nous avons participé à la reconstruction d'une clinique qui avait été bombardée et détruite, ce qui s'est passé pendant le Covid en Tunisie et en Algérie. Nous avons effectivement apporté notre contribution justement pour venir en aide à ces pays. Nous souhaitons aujourd'hui que la communauté musulmane, dans sa globalité, puisse se mobiliser pour aider la Turquie et la Syrie.
Le recteur de la mosquée de Lyon, président du Conseil des mosquées du Rhône, Kamel Kaptan. Un autre appel, celui du grand imam de Bordeaux, président du comité d'éthique du Secours islamique France, Tarek Oubrou.
C'est une catastrophe qui a touché deux pays en même temps, une population déjà vulnérable en Syrie. Et donc c'est une double peine d'une certaine manière. Et à double titre, en tant que citoyen français, en tant qu'être humain d'une part et en tant que musulman, j'appelle tous mes concitoyens, mes co-religionnaires de se mobiliser et de porter aide aux sinistrés. Même si on ne peut pas ressusciter les morts, on peut prier pour eux, pour leurs familles, de soulager leurs peines, mais également de les aider par des dons. Donc dans nos mosquées nous-mêmes, nous avons fait appel aux dons et également en tant que président du comité d'éthique, nous sommes mobilisés également pour collecter de l'argent dans le cadre du CIF pour envoyer cette aide à ces populations touchées. Et véritablement, ces catastrophes ne connaissent pas de frontières, ne connaissent pas d'ethnie ni de religion. Plus que jamais, l'humanité doit être solidaire devant ce genre de catastrophes. La France s'est mobilisée également pour aider ces populations. Donc je pense qu'il y a un élan de soutien aux victimes de ce séisme. Et donc effectivement, c'est là où la générosité, l'altruisme, l'instinct humain se mobilisent, quel que soit d'ailleurs la religion, les convictions philosophiques des uns et des autres pour aider des populations. Aujourd'hui, c'est la Turquie et la Syrie. Demain, peut-être un autre pays. Donc, effectivement, nous devons être solidaires plus que jamais dans un monde plein d'incertitudes, des catastrophes naturelles, plus ou moins naturelles, les guerres. Nous devons vraiment faire tout pour venir en aide pour les gens qui sont dans le besoin.
Vous l'avez souligné, vous présidez le comité d'éthique du Secours islamique de France. Comment allez-vous vous organiser pour envoyer cette aide à la Turquie et à la Syrie, aux populations sinistrées, à ces dizaines de milliers de personnes sinistrées?
Écoutez, nous avons déjà des équipes sur place. Hein. Donc le Secours islamique est présent dans beaucoup de pays dans le monde. Et nous avons des gens de terrain sur place. Donc ce travail-là est bien rodé au sein du Secours islamique France. Nous sommes toujours mobilisés dès qu'il y a une catastrophe, que ce soit dans un pays musulman ou pas d'ailleurs. Donc effectivement, nous avons déjà en place des équipes. Donc il nous manque la collecte du don pour pouvoir acheminer ces collectes aux populations concerné.
Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux, président du comité d'éthique du Secours islamique France. Le président algérien a décidé de rappeler pour consultation son ambassadeur en France, une décision à la suite de l'exfiltration, selon le terme employé, de la militante et journaliste Amira Bouraoui via la Tunisie lundi dernier. Une annonce de la présidence dans un communiqué arrêté en Tunisie le 3 février, d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie. Amira Bouraoui a finalement pu embarquer le 6 février sur un vol à destination de la France. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Bruxelles ce jeudi pour un Conseil européen extraordinaire. Cela au lendemain d'un déplacement à Londres et Paris. Le président ukrainien qui insiste pour que ses alliés lui livrent des avions de combat pour repousser la Russie. Nouvelle journée de mobilisation samedi prochain contre la réforme des retraites. Il y aura des manifestations, mais pas de grève. L'intersyndicale a appelé à une journée de grève et de manifestation le jeudi 16 février prochain. Des retraités seront dans les cortèges à l'image de Bernard Guidou, secrétaire général adjoint de l'UCR-CGT, la section des retraités du syndicat Bernard.
Le message est clair depuis maintenant plusieurs semaines. L'ensemble des syndicats de ce pays, ce qui est quand même relativement rare, s'oppose à un nouveau recul de l'âge de la retraite. Tout ça est accompagné par une grande majorité de la population française, actifs, retraités, jeunes, qui s'oppose aussi à cette situation. Tout ça a fait l'objet de plusieurs mobilisations importantes qu'on a rarement connues dans notre pays depuis 30 ans. D'ailleurs, l'ensemble de ceux qui regardent l'actualité sociale s'en font l'écho. Aujourd'hui, il est temps dans une démocratie, quand on est à ce stade du refus, de retirer la réforme. Voilà, donc nous, au niveau des retraités CGT, on est pleinement concernés, bien entendu, par cette réforme, et on demande maintenant au gouvernement de retirer en urgence, au gouvernement et à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, qui regarde ce texte, de retirer cette mauvaise réforme qui est rejetée par les Français et d'ouvrir une vraie discussion sur l'avenir des retraites.
Justement, en tant que retraité CGT, en quoi êtes-vous concerné par cette réforme, Bernard Guidou?
Alors, on est concerné sur deux points essentiels. C'est que le premier, c'est que si demain les retraités ils partent avec un âge plus lointain, mais surtout avec une décote, parce que ce qui est visé dans cette réforme, c'est au-delà de l'âge de la retraite, c'est aussi le nombre d'années de cotisation qui va amener beaucoup d'actifs d'aujourd'hui à partir avec des sous-retraites. Et la sous-retraite veut dire que demain, les retraités actuels, on sera stigmatisés, comme quoi on serait des retraités qui ont bénéficié d'un système bien meilleur. Donc voilà, c'est pas la réforme que les retraités veulent. Deuxième chose, c'est que les retraités sont stigmatisés par le gouvernement, alors qu'ils bénéficient à la société. Ils sont très investis dans le milieu associatif, très investis dans le milieu politique, très investis dans leur famille. Donc aujourd'hui, les retraités, certes, ils sont sur un domaine de non-activité, mais ils sont aussi très utiles à la société sur plusieurs critères. Voilà, donc les retraités sont pleinement concernés, certes en solidarité, parce que aussi ils voient l'avenir de leurs enfants, mais surtout par intérêt d'être dans cette mobilisation. Donc je le redis, le gouvernement, si on est dans un pays démocratique, face à l'ampleur de la mobilisation, au refus de la population, et à l'ensemble de ceux qui pèsent dans le pays, entre autres les organisations syndicales, doit retirer son projet et ouvrir une vraie discussion sur l'avenir du système de retraite.
Et vous soulignez que les personnes à la retraite restent souvent actives, notamment dans le secteur associatif. Et cette réforme pourrait, selon vous, nuire justement à ce secteur associatif et plus globalement au bénévolat ?
Bien sûr. Quand on arrive à la retraite à un âge raisonnable, on a encore la force, les convictions bien entendu, mais la force de s'investir dedans le milieu associatif, etc. Si demain les gens... ils arrivent à un âge 64, voire, comme je vous disais tout à l'heure, avec la décote, 65, 66, 67, 68 ans, ils seront plus en capacité de s'inscrire dans la société en termes d'aide au niveau associatif, politique, dans leur famille, comme ils s'y inscrivent aujourd'hui. Les retraités sont utiles quand ils sont dans une vie de retraité. Aujourd'hui, on veut amener quasiment la retraite au bord de la fin de la vie, quoi. C'est pas ça, la retraite. La retraite, c'est la continuité de la vie et on doit pouvoir en bénéficier. Voilà. Alors après, un élément important, c'est que la CGT condamne cette réforme, mais en veut une, parce qu'on a besoin aujourd'hui de réfléchir sur le financement des retraites, sur quel niveau de retraite, avec quel âge. Et c'est vrai que ça pose des questions de financement. Et la CGT, elle a des propositions multiples, hein, sur l'augmentation des salaires, sur l'arrêt des exonérations patronales qui servent plus au licenciement dans les entreprises qu'à investir, etc., etc. Donc nous, on a de véritables propositions pour non seulement refuser cette réforme, mais en faire une autre beaucoup plus juste qui permet un âge à la retraite beaucoup plus précoce et avec un niveau de vie beaucoup plus important.
Et si cette réforme passe, eh bien, l'âge de 64 ans, cela ne sera pas pour tout le monde. Il faudra avoir ses 43 annuités.
C'est ça. Le problème de fond, c'est qu'il y a deux choses. Il y a les 64 ans et les 43 ans d'annuité. Quand on sait que la moyenne d'âge d'un salarié aujourd'hui pour être embauché, enfin quand il s'intègre dans le milieu du travail, c'est 25 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en grande moyenne, les actifs d'aujourd'hui, quand ils vont arriver pour prendre leur retraite à 64 ans, ils subiront une décote extraordinaire, c'est-à-dire ils subiront une sous-pension. Et s'ils veulent vraiment avoir une retraite correcte, bah, c'est pas à 64 ans la vraie retraite, ça sera à 67, 68, 69, voire plus.
Bernard Guidou, secrétaire général adjoint de l'UCR CGT. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient à 19h et 23h et si on en parlait, le thème de cette émission, cantine scolaire, crèche, hôpital, une autre restauration collective est-elle possible? Les invités d'Alexis Bachelet, Pierre-Yves Rommler, cuisinier, co-auteur d'une autre cantine est possible, et Francesca Paschini, députée des Hauts-de-Seine. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.